des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Hey, bonjour Richard.
Salut Mario.
Alors, tu veux me parler de Justin Trudeau, qui s'excuse souvent quand même, qui s'est excusé à répétition.
Ben oui. Il s'excuse beaucoup, il aime pleurer. Il s'excuse parce que le Canada a interné des Japonais pendant la Deuxième Guerre. Il s'est excusé pour les pensionnats autochtones, etc. Et là, c'est la question que pose Frédéric Bastien, historien, qui a sorti une coupe de bons coups. Hein. Il a sorti une coupe de bons coups ces temps-ci. Et qui se présente, bien sûr, à la chefferie du PQ. Puis là, il demande à ce que Justin Trudeau s'excuse au nom de son père pour les arrestations arbitraires qui ont été faites pendant la crise d'octobre, il y a 50 ans. On rappelle une loi qui a été votée en pleine nuit, une loi obscure qu'on a déterrée, qu'on connaissait absolument pas, qui permettait aux policiers de faire des arrestations sans mise en accusation, sans avoir de mandat d'arrestation. Près de 500 personnes, 497 personnes qui ont été arrêtées. On a passé la gratte, on s'est fait plaisir. Si t'étais moindrement de gauche, si t'étais moindrement syndicaliste,
membres du PQ, c'est ça, les premiers membres du PQ.
Les premiers membres du PQ, les membres de l'opposition, c'est dans le parti de l'opposition de Jean Drapeau. Il y a des gens qui se présentaient contre Jean Drapeau à la mairie de Montréal, qui ont été aussi ramassés. On a ramassé ces gens-là sous prétexte qu'il y avait des accointances avec les Felkis, mais finalement, on voulait faire le ménage. Et des gens qui ont été pendant des jours en prison, sans connaître pourquoi on les met en prison, sans connaître c'est quoi les accusations, etc., sans mandat d'arrestation. Et je dis aux gens, là, parce que je pense qu'il y a une soif d'apprendre chez les jeunes de cette période-là qu'ils ne connaissent pas très beaucoup. Puis là, il y a le film Les Roses qui remporte un très bon succès en salle actuellement. Et je dis à ces gens-là, allez sur le site de l'ONF, c'est gratuit, et regardez le film Les Ordres de Michel Brault. Michel Brault a fait ce film-là et c'est basé sur des témoignages de gens qui ont été arrêtés pendant la crise d'octobre. Et Mario, tu regardes ce film-là et tu as l'impression de regarder une histoire qui s'est déroulée dans les dictatures d'Amérique latine, tu sais, là, au Chili sous Pinochet. C'est hallucinant, là. Écoute, il y a un moment donné, il y a un gars qui est interprété par Claude Gauthier, mais c'est une vraie histoire. On l'a descendu dans le sous-sol du poste de police, puis on lui dit, on va t'exécuter. On l'a mis face à un mur, on l'a tiré dessus, mais à blanc. Avec un à blanc, le gars s'est évanoui, était sûr de crever. Écoute, c'est des histoires hallucinantes. Là. C'est une page extrêmement sombre. C'est dur à imaginer que ça s'est déroulé.
Parce qu'en même temps, tout ça s'est fait avec quand même un appui public important. Là. C'est-à-dire que les gens se doutaient pas des choses comme ça. Mais le public, là, la population, c'est un peu le principe de la loi et l'ordre du président Trump. Là, à partir du moment où t'as le FLQ qui met des bombes dans les boîtes à lettres, qu'il y a des victimes innocentes, la tour de la bourse, etc., je veux dire, le Québécois moyen ordinaire là, qui veut juste une vie paisible, lui, il était plus. Je veux dire, ceux qui étaient pas. Ceux qui étaient un ou l'autre, soit que t'étais vraiment un militant de la cause, mais le reste des gens souhaitaient des mesures énergiques pour arrêter le terrorisme, là.
Et même René Lévesque aussi, qui était content que son parti soit associé à ça. D'ailleurs, toi, est-ce que M. Bourassa t'en parlait de cette période-là?
Souvent.
Robert
Bourassa disait très souvent, quand il y avait des décisions difficiles à prendre, ou même quand il était question de parler après le rapport à l'air et tout ça, là, de parler d'un référendum sur la souveraineté et tout ça, il disait toujours, vous saviez, vous auriez une autre sagesse ou un autre recul sur les choses. Moi, j'avais 36 ans, puis à un moment donné, ils m'ont appelé, puis j'avais une des ministres qui avait été enlevée, puis il était retrouvé dans le coffre d'une auto, puis ça dégénère vite une société. Donc oui, clairement, il était marqué parce que, je pense que de son premier mandat, là, je l'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la baie James puis ça. Les deux éléments qui a retenu là. Il y a un ministre dans une valise d'auto, puis moi c'est drôle. On dirait que j'en prends plus comme conscience de dire, tu sais, il était quand même. T'as beau dire que t'es premier ministre, t'as un entourage, t'as des briefings, des sous-ministres, de la Sûreté du Québec, de toutes sortes de monde. Il reste que t'as 36 ans, t'es tout seul. Quand t'arrives avec la décision, qu'est-ce que je fais avec ça, là, t'es tout seul avec toi-même. Puis c'est sûr que ça a
Mais dans le film Les Roses, dans le documentaire, ce qu'on laisse sous-entendre, c'est que le gouvernement libéral n'a pas fait grand chose pour sauver Pierre Laporte. On l'a un peu laissé aller.
Je pense qu'il croyait pas. Je pense qu'il croyait pas qu'on allait l'exécuter d'abord, mais je pense d'ailleurs c'était pas le but non plus là. Je pense que l'évaluation qu'il y avait de la menace, c'est que c'était pas des terroristes qui allaient le torturer.
Au moment où on se parle, on sait pas encore s'il a vraiment été exécuté. Hein. Il a voulu se sauver par une fenêtre et s'est blessé. Est-ce qu'on l'a retenu par sa chaîne? Est-ce que c'est une mort accidentelle? Moi, dans le film Les Roses, j'ai cru comprendre entre les lignes que c'est une mort accidentelle et eux autres, finalement, l'ont
revendiqué. Mais c'est la thèse la plus probable, sauf que...
un assassinat. Je crois que c'était... Et ça a l'air que Paul Rose, qui était pas là, cette journée-là, était atterré. Là. Il était vraiment... Il ne voulait pas ça.
Il voulait pas qu'il y ait mort d'homme. Et ceci dit, ils l'ont pleinement assumé. Puis les lois sont assez claires un peu partout dans le monde. Là. Quand tu procèdes à un enlèvement, t'es responsable de la suite. Si la personne meurt pendant l'enlèvement,
Les Felkis le disent eux-mêmes. On est responsable de sa mort parce que si on l'avait pas kidnappé, il serait pas mort.
C'est ça.
Donc, ils sont responsables. Mais cela dit, les arrestations arbitraires, écoute, là, on a ramassé plein de gens.
Qui n'étaient pas du tout reliés à ça, là.
Qui était absolument pas reliés à ça, ou qui étaient souverainistes. Mais tu sais, bon, on a entendu, bien sûr, Frédéric Bastien a fait une conférence de presse demandant des pardons, puis il était avec la sexologue Justine Robert, qui, elle, était enceinte. Puis tu sais, c'était vraiment pas évident, là, ce qu'elle a vécu. Et je pense que effectivement, puis surtout que, tu sais, dans l'histoire de la statue des Boulonnais de Johnny McDonald, Justin Trudeau a ouvert la porte, et tu sais, il a dit... C'est vrai qu'il est temps peut-être de revoir l'héritage de tous les premiers ministres pour voir s'il mérite d'être glorifié, d'avoir une statue, y compris revoir l'héritage de mon propre père. C'est ce qu'il a dit, là. Donc, écoute, il ouvre la porte, là. Ça serait bien qu'il s'excuse au nom de papa, mais c'était quand même une période extrêmement sombre et honteuse de l'histoire du Canada.
Tu veux me parler de Québec solidaire qui c'est pas simple, hein? Qu'est-ce qu'on fait en temps de pandémie? Est-ce qu'on critique ou pas? Et comment?
On appelle ça un Catch-22. Catch-22, c'est une formule qui vient d'un livre qui a été écrit à la fin des années 60 aux États-Unis. Ce qui veut dire, c'est que tu es dans une situation impossible. Quoi que tu fasses, t'as l'air fou. Parce que là, les députés, c'est-à-dire que les militants ont dit que les députés étaient trop derrière François Legault, qu'ils l'ont pas suffisamment critiqué. Mais t'imagines, là, t'es à Québec solidaire, tu fais quoi? Si tu commences à critiquer le gouvernement en pleine pandémie, les gens vont dire que tu profites de ça pour faire de la petite politique. T'as l'air fou. T'as l'air de vouloir politiser ça. Puis en même temps, aussi, peut-être que tu vas te faire traiter, là, tu vas te faire mettre dans le même panier que les complotistes, les gens qui trouvent qu'il n'y a pas vraiment, de danger, qu'il n'y a pas vraiment de pandémie. Tu veux pas ça non plus. Mais en même temps, te rallier derrière le premier ministre. C'est certain que tes militants sont en maudit parce que ton rôle, c'est de donner des coups de pied dans le cul du premier ministre et du pouvoir. Tu fais quoi? C'est un catch-22 incroyable. Et Manon Massé qui disait, écoute, en pleine pandémie, là, je m'excuse, mais il faut que tu modères tes transports. Tu peux commencer à coller au plafond puis gueuler après le gouvernement, surtout qu'au début, là, on
Monsieur Legault les appelait. Monsieur Legault s'était engagé à appeler deux fois par semaine les chefs d'opposition pour avoir leur portrait de situation. Imagine qu'elle, mettons, d'abord, si t'es pour gueuler comme un putois après le gouvernement, faut que tu refuses cet appel-là. Tu peux pas parler avec... Fait que là, faut que tu dises, nous, là, Québec solidaire, on refuse l'appel du premier ministre, on veut juste le critiquer. Il y aurait passé des vrais fous, là. Je comprends qu'auprès de leurs militants, peut-être qu'il y a une mince proportion qui aurait dit notre parti se tient debout, puis il laisse pas aller Legault tout seul. Mais je veux dire, dans tout le reste de la population, il aurait passé pour des vrais sautés. Là.
Ben oui. Carrément, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec la conception de l'économie de François Legault ou quoi que ce soit. Là, une pandémie, là, puis une pandémie, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a pas de libéral, puis de péquiste, puis de on est tous des êtres humains poignés avec un virus.
Ceci dit, ils sont bien sortis de leur s'ils ont été pris dans ce catch-22, ils sont bien sortis de l'autre piège où ils s'étaient eux-mêmes mis. Tu sais, l'ultimatum 2020, c'était toute une patente, ça, là.
Là, ils voulaient bloquer le gouvernement.
À partir de demain, la rentrée parlementaire, il n'y aurait pas eu de session.
Ils bloquaient tout, là.
Ils bloquaient. Donc, à 9, là, ou à 10, sont 10 députés, là, ils s'installaient dans tous les travaux parlementaires à faire du temps, là. Ça aurait été exigeant pour eux, là. Mais ça se fait, là, à 10. Ils auraient bloqué toute forme de travaux parlementaires en disant tant qu'on n'aura pas un plan sur les changements climatiques, le Parlement peut plus fonctionner à Québec. Un, eux se seraient épuisés de ça. Et deux, là, je peux te dire que du côté du gouvernement,
Mais même sans pandémie, là, mettons, là, oublions qu'il n'y a pas de pandémie, là, on est en période normale, puis qu'il y a une petite gang de députés là, comme ça. Là,
qui empêche le Parlement de fonctionner.
Ben voyons donc.
Ça n'aurait pas passé. Donc, la pandémie, à mon avis, les a sauvés. Là, leur a permis d'avoir une porte de sortie.
Oui, oui, parce qu'il allait direct dans le mur avec ça. Là. Et tu sais, il y a deux sortes de monde dans Québec solidaire. Je pense qu'il y a une vieille gauche qui veut. C'est pas suffisant d'avoir raison. Ce qu'ils veulent, c'est gagner, avoir le pouvoir. Mais une gang, là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Puis finalement, ça les réconforte d'être dans l'opposition parce que
T'as toujours raison dans l'opposition.
T'as tout le temps raison. Tu chiales, puis tu prends jamais des décisions qui sont impopulaires ou quoi que ce soit. C'est une position extrêmement confortable. Mmh. Et il y a une gauche qui veut pas avoir le pouvoir, qui veut avoir raison. Et ça, c'est bien fatigant, cette gauche-là.
Tu te demandes si le revenu minimum garanti est une fausse bonne idée.
Oui, c'est ça. Mais écoute, le 23 septembre, ça a l'air qu'il y a des libéraux qui jonglent avec cette idée-là. On sait qu'il va nous annoncer une révolution.
Mais je pense
que ça
t'y est dit, là, les révolutions.
Ça t'y est dit. On voit ça dans le Devoir aujourd'hui. Une refonte totale du filet social, ça va être quoi? Ben, à un moment donné, ils ont jonglé avec l'idée du revenu minimum garanti. Puis je pense qu'ils ont vu la PCU. Parce que le revenu minimum garanti, c'est qu'on paye à peu près quoi? 1 500 $ par mois. 1 500 $ par mois, à peu près, tu sais, 15 000 $ par année, là, chose comme ça, pour rester chez toi. Et là, ils ont vu les effets néfastes de la PCU, parce que, tu sais, bon, pour certaines personnes, 15 000 $ par année, c'est pas beaucoup. Mais il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, eux autres, tu sais, ils veulent pas beaucoup dépenser, c'est les adeptes de la simplicité volontaire, etc. 15 000 $ serait bien content, surtout les jeunes resteraient chez papa, maman, puis on sait qu'ils collent maintenant jusqu'à 30 ans, 35 ans. Payer 15 000 $ et rester à la maison, ce serait très bon. Ils sont en train de se rendre compte que, tu sais, c'est peut-être une fausse bonne idée. C'est-à-dire que t'enlèves l'aide sociale, t'enlèves l'assurance chômage, t'enlèves tout ça. Tu donnes 1 500 $ par mois, puis dans le sens, c'est terminé. Ouais. Débrouille-toi avec ça.
Ouais. Tu peux donner 15 000 qui est imposable. C'est pour les gens qui travaillent, mais ils redonnent la plus grande partie. Mais la seule façon de faire ça, que ce soit, c'est une idée que j'ai regardée au fil des années. La seule façon utile de faire ça, d'abord, nous autres, Québec, Ottawa, là, ça marche pas. Là, t'as le chômage à Ottawa, l'aide sociale est à Québec, les prêts et bourses sont à Québec. Il faudrait que tous les programmes soient au même endroit. Mmh. Deuxièmement, là, tu comprends que l'idée de ça serait de couper là tous les fonctionnaires qui gèrent l'aide sociale.
C'est pour ça qu'il y a des gens conservateurs qui sont pour ça.
À Québec et Ottawa, peut-être 20-25 000 fonctionnaires, peut-être plus des fonctionnaires. Mais là, dans l'état actuel des choses, tu feras aucune économie. Ils ont la sécurité d'emploi, une convention collective blindée.
Ben oui.
Fait que tu vas être obligé de les garder sur une tablette. Fait que pour toutes ces raisons, je vois difficilement comment on pourrait implanter ça.
Écoute, on sait que c'est pas demain qu'on va soudainement dégraisser l'État. Hein? L'État ne fait qu'engraisser, l'État ne dégraisse jamais. Donc, ça m'étonnerait qu'on sacre dehors soudainement des milliers de fonctionnaires. Ou alors, on va les garder et ils n'auront rien à faire. Ouais. Mais là, ce qui serait encore absolument
encore plus absurde. Hey, merci Richard, à demain.
Merci, à demain.